Voilà, je vais vous souhaiter la bienvenue, Michel.
Bonjour, Joël.
Voilà, ça me fait bizarre de ne pas avoir les brèves, mais c'est exceptionnel. Donc, Michel, bonjour. Avant que vous présentiez votre chronique, on va juste dire quelques mots et puis l'occasion également de souhaiter la bienvenue à Thierry Bonin, président de Gel Astronomie. Bonjour également à vous, Thierry.
Bonjour.
Alors, c'est vrai qu'on ne va pas rentrer dans la vie privée, mais Michel, on devait avoir un plateau autour de nous et malheureusement...
Aujourd'hui, oui, apparemment, les choses ne se passent pas comme
voilà,
prévu.
Voilà, sans entrer dans la vie privée.
On va avoir Corinne, hein, Corinia, comme Yaya, pardon, comme d'habitude, présidente d'AG33, qui vient parler des animations, par exemple, pour les Nuits des Étoiles. Hein, c'était encore le cas en août. Mais elle a pris un décès dans sa famille dans la nuit et donc elle n'était pas disponible. Normalement, elle doit être remplacée un peu au pied levé par Joël Vallée du même club, mais il n'est pas encore arrivé. Et on aurait dû avoir avec nous aussi le président de Vega de la Lyre, Philippe Gilabert, et il m'a téléphoné ce matin pour me dire que malheureusement, il était un peu souffrant et qu'il ne pouvait pas être avec nous à midi. Donc on parlera de ses animations à partir des informations qu'il m'a envoyées.
Voilà, et on a une petite pensée pour eux, bien sûr, à Corinne, on lui envoie toutes nos condoléances sincères, et puis à Philippe, voilà, tous nos voeux de prompt rétablissement. Alors du coup, Michel, je ne sais pas si vous voulez commencer sur votre chronique par l'actu, ou rappeler quelques infos. Voilà, vous avez prévu de parler, bien sûr, du plateau, c'est ce que vous venez faire. Je ne sais pas si vous voulez compléter
oui,
avant de rentrer dans le vif du sujet.
J'ai pas précisé, mais en fait, on invite, comme on le fait pour les Nuits des Étoiles, des clubs d'astronomie de la région bordelaise, de venir parler de leurs animations, parce qu'il y a à nouveau des animations d'astronomie début octobre, dans le cadre de deux opérations nationales. D'un côté, la fête de la science, qui dure une grosse semaine, elle commence vendredi jusqu'au lundi 11, et le samedi 9, comme chaque année, sauf l'an dernier, pour des raisons sanitaires, ça n'avait pas pu avoir lieu, le jour de la nuit, qui est une manifestation qui concerne encore plus les astronomes, puisqu'il est question de la qualité du ciel noir et de la pollution lumineuse. Donc on y reviendra avant de parler de toutes ces animations. Je parlais un petit peu de cette manifestation et de ce problème de pollution lumineuse.
Très bien. Mais du coup, Michel, si vous voulez commencer votre chronique à nous parler d'actu, une nouvelle étape du tourisme spatial avec SpaceX.
Voilà. J'avais évoqué ici début août les premiers vols de touristes spatiaux avec l'avion spatial Spaceship Two de la société Virgin Galactic, fondée par le milliardaire britannique Richard Branson, qui avait atteint l'altitude de 86 km le 11 juillet, coiffant sur le poteau de quelques jours l'Américain Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, et sa société spatiale Blue Origin, qui envoyait le 20 juillet sa fusée réutilisable New Shepard à 106 km. Dans les deux cas, il s'agissait de vols suborbitaux, c'est-à-dire, si je peux dire, des sauts de puce paraboliques, leur permettant tout juste de sortir de l'atmosphère pour profiter quelques minutes des sensations de la pesanteur, de voir le ciel noir étoilé en plein jour et d'admirer une large portion de la surface terrestre. Comme nos auditeurs ont pu l'entendre dans les médias, parce que ça a été largement relayé, ils ont été rejoints par la société SpaceX d'Elon Musk avec sa mission Inspiration 4 entre le 16 et le 19 septembre dernier. Il s'agissait encore d'envoyer dans l'espace des touristes, c'est-à-dire des astronautes non professionnels, mais cette fois c'était pour une véritable mise en orbite de quelques jours, à une altitude d'ailleurs un peu supérieure à celle de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, 585 km contre 400 km pour l'ISS. D'ailleurs, le dispositif utilisé est analogue à celui qui permet à SpaceX d'envoyer des astronautes vers l'ISS, la capsule Crew Dragon, propulsée par le lanceur Falcon 9. La capsule avait déjà été utilisée pour l'envoi de la mission Crew 1 vers l'ISS, mais pour ce vol particulier, elle avait été modifiée en remplaçant son nez, si je peux dire, qui comporte habituellement le système d'arrimage à l'ISS par un dôme transparent en plexiglas permettant aux passagers d'avoir une meilleure vue de leur environnement. Le vol a été financé par le milliardaire Jared Isaacman, à hauteur probablement, hein, on n'a pas le prix exact, mais de 200 millions de dollars, qui a ensuite choisi les trois autres passagers pour l'accompagner. Si cette mission ressemble à celle des vrais astronautes, avec notamment un entraînement de 5 mois pour l'effectuer, elle évoque plus celle des années 70, car ils sont restés confinés dans l'espace très restreint de la capsule Crew Dragon, soit environ 9 mètres cubes. Pour donner une idée, c'est à peu près le volume intérieur d'un fourgon genre Renault Master, par exemple. De plus, le confort est des plus sommaires, même si la capsule est équipée d'un dispositif de toilette pour les astronautes en route quelques heures vers l'ISS, Mais pas de chance pour les touristes spatiaux, elles sont tombées en panne pendant leur vol et ils ont dû essayer de les réparer en suivant les indications de l'équipe au sol. On peut donc estimer que le service à bord n'était peut-être pas tout à fait à la hauteur du prix du billet.
Alors on est loin, voilà, pardon Michel, parce que Joël Vallée nous a rejoint, bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc j'ai un petit moment d'hésitation, pardon Michel. On va parler avec vous, hein, Joël, en tout cas bienvenue. Hein.
Merci de m'accueillir.
Je
remplace Corinne, donc voilà. D'AG33 SOCAT.
Tout à fait. Donc voilà, désolé Michel, hein, voilà, c'était bien d'accueillir Joël. On est toujours en direct avec Michel Favre pour sa chronique Astro dans l'actualité. Et on est très loin du volume disponible et du relatif confort de l'USS.
Oui, hein, bien c'est sûr Michel. Ces petites capsules n'ont rien à voir avec l'ISS, hein, j'en ai déjà parlé ici, qui est grande comme, je crois, l'équivalent d'à peu près 3 bus mis bout à bout. Alors en effet, mais les astronomes à bord de l'ISS, dont le français Thomas Pesquet, hein, on le sait bien, ont connu aussi quelques problèmes. Après l'incident du nouveau module russe Nauka le 29 juillet, qui suite à l'allumage incontrôlé de ses moteurs avait fait pivoter l'ISS dans une position imprévue, ils ont eu une nouvelle frayeur dans la nuit du 8 au 9 septembre, où ils ont été réveillés par une alarme incendie et constaté une odeur de fumée. Cette fois, le problème venait d'un autre module russe, Zvezda, en orbite depuis 2000. Il semble que l'incident se soit produit pendant la recharge des batteries et l'activation d'un système de purification de l'air a permis d'éliminer les substances toxiques qu'il contenait, qui auraient pu être dangereuses pour les astronautes. C'est probablement un signe du vieillissement des modules âgés de la station, en orbite depuis plus de 20 ans, comme aussi des fissures qui ont été détectées le 30 août dans l'autre module russe Zarya. À propos des projets de SpaceX dans le domaine du tourisme spatial, la société prévoit une mission privée, donc encore des passagers payants, vers l'ISS en février prochain pour un séjour d'une dizaine de jours. Elle est baptisée Axiom Space One par référence à un nouveau module, Axiom, qui devrait être ajouté à l'ISS pour accueillir ses touristes peut-être en 2024 et qui, avec l'assemblage d'autres modules, pourrait constituer une future station orbitale privée de la société américaine Axiom Space. La deuxième mission Axiom devrait suivre à l'automne 2022. Et si on ne connaît pas encore tout l'équipage, des rumeurs insistantes parlent de Tom Cruise, ce qui pourrait confirmer un projet de prise de vue en apesanteur pour un prochain film, comme annoncé l'an dernier par l'ancien administrateur de la NASA sous l'administration Trump. De son côté, SpaceX devrait franchir dans les prochains mois une nouvelle étape dans le tourisme spatial avec des vols commerciaux de son vaisseau Starship, puisque ce lanceur lourd pourrait théoriquement embarquer une centaine de passagers avec sa capacité d'emport de plus de 100 tonnes en orbite basse. Mais pour le moment, il n'en est qu'à des vols de test non habités jusqu'à 10 km d'altitude qu'il a atteint le 6 mai dernier.
Alors Michel, parlez-nous des échantillons d'astéroïdes qui arrivent en France.
Oui, alors nous avons déjà évoqué ici les rares missions spatiales de retour d'échantillons sur Terre, notamment en décembre dernier à l'occasion de l'atterrissage réussi de la capsule renvoyée par la sonde Hayabusa 2 qui contenait 5,4 grammes d'échantillons qu'elle avait prélevés en 2019 sur l'astéroïde Ryugu. Ces fragments très précieux sont ensuite analysés pendant des mois, voire des années, par différents laboratoires à travers le monde. Et c'est le cas de l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, ou IPAG, qui fait partie des 6 équipes expérimentales préliminaires sélectionnées par la JAXA, l'agence spatiale japonaise. Ils ont reçu le 16 juillet dernier un simple colis postal par avion qui contenait 3 petites plaques de verre spécialement conçues pour enfermer 3 petits grains de matière d'à peine 1 mm provenant de Ryugu. Après une semaine d'analyse sur ce site, elles ont été expédiées à l'ENS de Lyon pour poursuivre leur étude. À l'IPAG, il s'agissait d'identifier avec un spectroscope infrarouge la matière organique présente sur les échantillons. Pour le moment, rien ne peut être divulgué sur les résultats, mais l'équipe de l'IPAG laisse entendre qu'on peut s'attendre à des surprises, notamment par comparaison à des études analogues qui avaient porté sur des météorites carbonées. Ces recherches portant sur les molécules organiques présentes sur les petits corps du système solaire visent à mieux comprendre comment la vie a pu apparaître sur Terre et quel rôle ont pu jouer les comètes et les astéroïdes. C'est pourquoi on réalise ces missions spatiales complexes pour les prélever in situ, car conservées pratiquement dans leur état initial de leur formation, il y a environ 4,5 milliards d'années, contrairement à ce qui se passe sur les planètes où les processus géologiques, et même biologiques sur Terre ont complètement modifié l'environnement de leur surface. On peut d'ailleurs faire un petit détour sur Mars à ce sujet, car la récolte d'échantillons est l'une des principales missions du rover Perseverance. Le 1er septembre, j'avais rapporté les problèmes rencontrés par le premier prélèvement du 6 août. Alors que tout semblait s'être correctement déroulé, il n'y avait aucune trace d'échantillon dans le conteneur prévu pour l'accueillir. Faute d'une autre explication, les chercheurs avaient conclu que le système de carottage avait dû pulvériser la roche trop friable. Cette explication semble confirmée car le prélèvement du 1er septembre a parfaitement réussi, 500 mètres plus loin, dans une roche située dans une région où la sonde a observé pour la première fois de son périple des roches stratifiées, donc probablement d'origine sédimentaire, formées au fond du lac qui devait occuper le site exploré, le cratère G0. Il reste encore 41 tubes disponibles pour accueillir des carottes de sol martien, à peu près de la taille d'un bâton de craie, destinés à être récupérés par une future mission conjointe de la NASA et de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, prévue à la fin de la décennie ou au début des années 2030.
Et vous pouvez nous parler de cette observation surprenante de Jupiter qui a été réalisée par des astronomes qui plus est amateurs.
Oui, alors cette nouvelle tombe bien puisqu'aujourd'hui nous accueillons en studio des clubs d'astronomie amateurs. Cette observation de la nuit du 13 au 14 septembre dernier a été faite simultanément par différents astronomes amateurs dans le monde, notamment au Brésil, en Italie, en Allemagne, en Roumanie et en France, avec pas moins de 7 ASTRAM, c'est comme ça que dans le jargon les astronomes amateurs, hein, ASTRAM, se désignent pour se distinguer des professionnels. Il y en avait 4 de la Société astronomique de Lorraine, parmi lesquels je citerai Didier Valiang, car je l'ai connu au petit club de Belfort il y a une quinzaine d'années. Ils observaient avec un assez gros télescope de 620 mm à l'observatoire d'Astroqueiras, situé à presque 3000 mètres d'altitude à Saint-Véran dans les Alpes du Sud. Curieusement, un membre du même club, Jean-Paul Arnoux, observait aussi Jupiter ce soir-là, mais depuis la Lorraine, avec un télescope de seulement 280 mm. Et idem pour Jean-Christophe Griveaux, depuis le nord de l'Alsace, et avec un télescope encore plus petit de 203 mm pour Michel Jackson dans les Ardennes. Il est probable que la plupart de ces observateurs avaient braqué leurs instruments sur Jupiter ce soir-là pour filmer le transit de Io, c'est-à-dire le passage de ce satellite devant la planète et la projection de son ombre sur celle-ci. Mais Michel Jackson, comme José Luis Pereira au Brésil, le premier à avoir donné l'alerte, font partie du réseau DETECT, piloté par l'astronome français Marc Delcroix, avec le groupe de planétologie de l'Université de Bilbao, une structure de coopération ASTRAM et professionnelle qui cherche à enregistrer le phénomène qui a été observé, un impact dans l'atmosphère de la planète. En effet, sur 9 vidéos prises ce soir-là dans le monde, la plus fine étant celle du télescope français de 620 mm, on peut voir à 0h41, l'heure française, un flash lumineux s'éclairer brièvement, environ 2 secondes. Certaines de ces vidéos sont accessibles d'ailleurs sur le site web de Ciel et Espace, hein, si les auditeurs veulent les voir. Ce flash résulte de l'entrée dans l'atmosphère de Jupiter d'un petit astéroïde d'environ 10 à 20 mètres, selon les spécialistes, c'est-à-dire comparable à celui tombé sur Tcheliabinsk en 2013. Cette estimation est basée sur la luminosité du flash enregistré par les vidéos et le fait que cet impact n'était pas majeur car il n'est resté aucune trace persistante dans l'atmosphère, contrairement aux impacts spectaculaires de juillet 1994, quand des débris de la comète Shoemaker-Levy 9 avaient percuté la planète, provoquant des chocs bien plus violents que prévus par les astronomes professionnels qui attendaient cette collision. Pour la petite histoire, cet impact majeur, largement relayé dans les médias, a été à l'origine de plusieurs films catastrophes les années suivantes, imaginant une collision avec la Terre, dont Armageddon en 1998 avec Bruce Willis, et la même année, Deep Impact, avec Elijah Wood, l'acteur américain plus connu pour avoir joué Frodon dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Malgré la masse énorme de Jupiter, 317 fois celle de la Terre, soit à elle seule 2,5 fois la masse de toutes les autres planètes réunies, donc exerçant une attraction très forte de tous les corps passant à proximité, ces impacts sont plutôt rares, du moins ceux observables depuis la Terre. On n'en connaissait que 8 autres depuis celui de 1994. Tous observés par des amateurs. D'ailleurs, cette nouvelle observation est un succès pour le réseau DETECT, mis en place en 2013, puisque c'est la deuxième fois, avec celui du 7 août 2019, qu'ils sont enregistrés par des ASTRAM membres de ce groupe. DETECT est aussi le nom du logiciel utilisé par ces astronomes pour analyser automatiquement leurs vidéos de Jupiter à la recherche d'impacts qui sont parfois si brefs et discrets qu'ils peuvent échapper à l'œil humain lors d'un visionnage. Ces observations visent à dater plus précisément la formation du système solaire. En effet, c'est par le comptage des cratères d'impact à la surface des planètes et satellites, comme Mercure ou la Lune, qu'on arrive à estimer leur âge. Encore faut-il confronter nos modèles théoriques de formation avec des observations actuelles du taux d'impact sur les planètes, d'où l'intérêt de ces recherches systématiques de collision, notamment sur Jupiter, qui par sa taille et sa masse est la meilleure candidate pour en détecter plus fréquemment.
Allez, toujours la chronique astro avec Michel Favré. Voilà, et là, Michel, vous allez nous parler du ciel du mois. Bon.
Oui, alors d'habitude, cette rubrique arrive à la fin de la chronique, mais je l'aborde plutôt afin d'évoquer brièvement les observations qui pourront être faites lors des animations proposées par les clubs de la région dont nous parlerons juste après. Comme chaque mois, je renvoie les auditeurs vers la rubrique « Ciel du mois » de la section astronomie de notre site web, www.constellationsetgalaxies.org, pour avoir les cartes du ciel correspondantes, c'est toujours dur de montrer des cartes à la radio, et avoir plus de détails. Je la mettrai à jour pour octobre d'ici la fin de la semaine. Avec le net raccourcissement des jours, on peut observer le ciel nocturne bien plus tôt qu'en été, puisqu'en ce moment, le soleil se couche vers 19h45 et la nuit arrive vers 20h45, ou 21h15 si on attend un ciel bien noir. L'automne est d'autant plus favorable aux astronomes pour commencer tôt que nous repasserons à l'heure d'hiver le dimanche 31 octobre, en reculant d'une heure nos horloges, passant de 3h à 2h. Ce dernier jour d'octobre, le soleil se couchera alors un peu avant 18h et il fera nuit dès 19h. Bien que nous soyons déjà en automne depuis l'équinoxe du 22 septembre, ce raccourcissement des jours compense presque le décalage progressif du ciel vers l'ouest jour après jour, nous donnant encore en début de nuit une configuration du ciel assez comparable avec celle de l'été. En ce moment, la voûte étoilée est encore dominée par la figure caractéristique du triangle de l'été, formée par trois étoiles brillantes qui sont visibles dès le crépuscule. Vega de la Lyre, la plus brillante et la plus haute, presque au zénith, c'est-à-dire au-dessus de nos têtes. Altaïr de l'Aigle, nettement plus basse au sud-est, et enfin Deneb du Cygne, la plus à l'est des trois. Dans un ciel bien noir, loin de la pollution lumineuse de nos éclairages, on peut facilement distinguer le ruban laiteux de la Voie lactée, notre galaxie, dont un morceau parcourt le Cygne, tandis que l'autre descend le long de l'Aigle et devient très lumineux en approchant du Sagittaire, constellation reconnaissable à sa figure ressemblant à une théière, proche de l'horizon, sud, juste à côté du Scorpion qui se couche assez tôt en ce moment. C'est dans cette région de la Voie lactée qu'on peut observer des objets typiques de l'été, avec de nombreux amas d'étoiles et nébuleuses que viseront sans doute les télescopes lors des prochaines animations. À l'est, c'est la constellation typique de l'automne, Pégase, qui se lève, accompagnée d'Andromède, dans laquelle les astronomes ne manquent jamais d'observer la grande galaxie la plus proche de nous, à quand même 2,5 millions d'années-lumière. C'est l'objet le plus lointain qu'on puisse distinguer à l'œil nu dans le ciel, et on peut déjà l'observer comme une petite ellipse laiteuse dans une simple paire de jumelles. Mais bien sûr, la vision est nettement plus impressionnante dans un télescope. Côté planète, nous avons toujours la très brillante Vénus qu'on peut observer côté ouest dans le crépuscule, assez basse, et qui se couche dès le début de nuit vers 21h15. Ce sera analogue tout le mois, même si la nuit survient de plus en plus tôt. Au sud-est, on perçoit l'autre phare dans le ciel, qu'est Jupiter. Au cours du mois, elle se décalera vers le sud et sera de plus en plus haut, donc observable dans de meilleures conditions. Dans une simple paire de jumelles, on peut apercevoir ses quatre principaux satellites. Mais la vision sera bien plus belle dans les télescopes lors des animations publiques. D'ailleurs, le soir du jour de la nuit, le samedi 9 octobre, si les observations commencent assez tôt, on pourrait voir émerger Europe de derrière la planète vers 20h20. Plus à l'ouest, environ la largeur d'une main bras tendu, et plus discrète, se trouve Saturne. Pour voir ses anneaux, il faut un instrument d'astronomie, lunettes ou télescope. Un spectacle de toute beauté qui à lui seul vaut la peine de se rendre sur les sites des animations proposées par les clubs. Malheureusement, on n'aura pas ce soir-là un passage de l'ISS, qui est souvent apprécié par le public. Même si elle passe ses prochains jours dans le ciel en soirée, entre 21h et 22h selon les jours, mais plus après le jeudi 7 octobre, car ensuite ces passages seront trop tôt pour être visibles. Pour la suite du mois, il y aura quelques conjonctions de la Lune avec les planètes. Le samedi 9, jour de la nuit, un fin croissant accompagnera Vénus dans le crépuscule jusqu'à son coucher. Il faudra ensuite patienter jusqu'au mercredi 13 pour voir la Lune gibbeuse proche de Saturne, puis le lendemain entre Saturne et Jupiter, formant un triangle avec les deux planètes, puis le surlendemain, vendredi 15, être plus proche de Jupiter.
Allez, vous êtes toujours à l'écoute des programmes d'Odo Radio, la radio des Hauts-de-Garonne. On est avec Michel Favré et d'autres invités avec qui on va s'entretenir d'ici quelques instants. Mais là, Michel, concernant votre chronique, vous allez aborder le sujet, le thème du mois, le jour de la nuit et la pollution lumineuse.
Voilà. Avant de passer la parole à nos invités, je veux revenir brièvement sur la raison du jour de la nuit. C'est une opération nationale qui tombe cette année le samedi 9 octobre. Et son but, c'est d'attirer l'attention du public sur le problème de la pollution lumineuse et notamment pour les clubs d'astronomie de montrer la vision du ciel sans les éclairages publics puisque les communes participantes sont invitées à les éteindre pour l'occasion. Cette manifestation est organisée par un collectif d'associations et notamment l'ANPCEN, dont je fais partie au travers de mon club Astro, comme de nombreux autres. Cette Association nationale de protection du ciel et de l'environnement nocturne, ANPCEN, créée en 1995, essaie de sensibiliser le public à ce problème, d'informer les décideurs, depuis les communes jusqu'au niveau national, sur la bonne façon de concevoir les éclairages pour limiter leurs effets néfastes, de promouvoir les communes engagées dans cette démarche au travers du label « Ville et village étoilés », hein, nos auditeurs ont peut-être déjà vu des panneaux comme ça au bord des routes, et de contribuer à la mise en place de réserves de ciel noir, nommées officiellement RIS, hein, pour Réserve internationale de ciel étoilé, comme par exemple en France, celle du Pic du Midi, autour de son observatoire, celle du Parc national des Cévennes, et la RIS Alpes Azur Mercantour.
Alors Michel, c'est vrai que ces termes, pollution lumineuse, on entend parler depuis pas mal de temps, mais est-ce que vous pourriez définir qu'est-ce que c'est en fait la pollution lumineuse ?
Alors en fait, on pourrait presque dire que ce problème naît en 1880, quand Thomas Edison, inventeur de l'ampoule électrique à incandescence, commence à éclairer les rues de certains quartiers de New York en remplaçant les vieux lampadaires à gaz. Depuis, l'éclairage de nos villes et villages n'a cessé de croître et de manière très spectaculaire ces dernières décennies, au point qu'aujourd'hui, dans la plupart des villes, on ne voit plus que quelques étoiles brillantes dans le ciel, alors qu'au début du XXe siècle, on pouvait en apercevoir des centaines, ainsi que le ruban laiteux de la Voie lactée. Les images de la Terre vues depuis les satellites montrent qu'en 20 ans, l'éclairage des pays développés a pratiquement doublé en intensité. Et nous consacrons toujours plus d'énergie aux éclairages publics. En France métropolitaine, il représente en moyenne 58% de la dépense énergétique des communes et équivaut globalement à la production de 2 réacteurs nucléaires de 900 MW. On voit donc que les enjeux énergétiques et budgétaires de cette inflation lumineuse sont loin d'être négligeables. Cet éclairage de plus en plus intense a 2 effets pour l'observation du ciel étoilé. Tout d'abord, si l'on a dans son champ de vision des points d'éclairage, comme moi, hein, je prends mon exemple avec une station-service qui reste allumée toute la nuit à 100 mètres de chez moi, cela empêche vos yeux d'atteindre leur maximum de sensibilité qui vous permettrait de percevoir des objets plus faibles, comme des petites étoiles ou quelques nébuleuses brillantes. À côté de cet effet direct, il y a un effet indirect par la partie de l'éclairage qui est envoyée vers le ciel, soit par des éclairages mal conçus, les pires étant les lampadaires boules ou des lanternes dont l'ampoule est apparente, ou la réverbération de la lumière par le sol. Cette partie de l'éclairage qui part vers l'espace et qui ne sert à rien pour nous éclairer, hein, c'est donc un gaspillage énergétique total, est pour une grande part piégée dans l'atmosphère qui n'est pas parfaitement transparente, avec son humidité et ses poussières. Le résultat, c'est que le ciel n'est plus noir, mais plus ou moins laiteux, et même orangé sur les photos, en raison des nombreux éclairages au sodium. On a tous déjà remarqué la nuit les halos lumineux qui signalent nos zones urbaines de très très loin. Du coup, les objets pâles, comme les nébuleuses ou les galaxies, mais aussi les étoiles les moins brillantes des amas, ne sont plus visibles dans les télescopes, comme ils devraient l'être sur un fond de ciel bien noir. Et cela touche aussi les observatoires professionnels, dont certains, trop proches des zones urbaines très éclairées, ne sont plus exploitables.
Alors ce problème touche donc surtout les astronomes ?
Alors malheureusement non, les astronomes ont été un peu les précurseurs dans la mise en évidence de la pollution lumineuse, car ils étaient les premiers à en constater les conséquences. Mais si je peux dire, les comparaisons valent ce qu'elles valent, ils étaient un peu comme les pêcheurs qui détectent en premier les pollutions des cours d'eau, alors que ce problème a un impact beaucoup plus large et nous concerne tous. Il en va de même pour la pollution lumineuse qui a des conséquences sur tout l'environnement, de la flore à la faune. Par exemple, avec les arbres éclairés jour et nuit qui ne peuvent plus se reposer lors de leur cycle nocturne quand la photosynthèse devrait cesser normalement. Ou la faune nocturne dont les comportements sont perturbés par les éclairages, soit parce que ceux-ci leur interdisent certains territoires, par exemple en les exposant à leurs prédateurs, soit à l'inverse qui les attirent, comme par exemple les insectes qui tournoient autour de nos lampadaires, provoquant en moyenne la mort de 150 d'entre eux chaque nuit, selon les mesures de la NPCEN. Et ils attirent chaque nuit 150 par lampadaire, hein, on est bien d'accord. Et ils attirent à leur tour des oiseaux diurnes, comme par exemple les troupes des tourneaux, qui séjournent dans les arbres voisins en laissant des traces de leur passage sur les carrosseries de nos voitures. Par exemple aussi les lucioles ou vers luisants, qui sont de plus en plus rares, car l'éclairage ambiant ne permet plus aux mâles et femelles de se rejoindre avec les signaux lumineux qu'ils émettent. Ou les oiseaux migrateurs, qui se perdent en confondant les éclairages des villes qu'ils survolent avec les étoiles grâce auxquelles ils se guident. Même les humains sont concernés par cet éclairage nocturne excessif qui perturbe nos rythmes biologiques. L'alternance jour-nuit joue un rôle majeur dans le réglage de nos cycles circadiens qui régule la production de certaines hormones, comme par exemple la mélatonine, et le fonctionnement de nos organes. De nombreuses études montrent la dégradation de la santé suite aux expositions aux éclairages artificiels, par exemple chez des personnes qui travaillent de nuit. Face à ces constats, une législation spécifique se met progressivement en place, notamment en France avec les lois de 2009 et 2010 suite au Grenelle de l'environnement, puis en 2015 la loi sur la transition énergétique et 2016 la loi sur la biodiversité. Le problème, c'est que ces réglementations sont mal connues et souvent peu respectées. Par exemple, il est facile de constater que la plupart des commerces n'appliquent pas l'arrêté du 25 janvier 2013 qui prévoit que les locaux à usage professionnel et les vitrines de magasins doivent être éteints une heure après la fin de leur occupation et au plus tard à 1h du matin, et idem pour leurs enseignes et éclairages extérieurs, notamment les parkings. Il suffit de se promener la nuit pour constater la part considérable de sites qui sont en infraction par rapport à ces dispositions. C'est pourquoi les associations concernées essaient d'informer un public le plus large possible, notamment au travers de l'opération nationale Jour de la nuit de début octobre, avec de nombreuses animations partout en France et pas seulement dans le domaine de l'astronomie. Par exemple, certains sites proposent de mieux connaître et observer la faune nocturne. Mais bien entendu, c'est autour du ciel, c'est surtout du ciel, pardon, dont nos invités vont nous parler maintenant.
Voilà, merci Michel pour cette chronique. Alors, on peut spécifier, hein, prochaine chronique le mercredi 27 octobre, la numéro 80.
En principe.
On est bon.
En principe. Et d'ailleurs, bon. Pour la petite histoire, aujourd'hui, fin septembre, ça doit faire 7 ans que les chroniques existent, puisqu'on a commencé en septembre 2014.
Voilà, ça fait encore un anniversaire. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas eu que de bonnes nouvelles, hein, notamment concernant le plateau aujourd'hui. Hein. On fait un petit coucou amical, bien sûr, à Corinne et Philippe. Mais voilà, 7 ans. Et c'est parti pour durer, j'espère. Hein, Michel,
on va voir.
Allez, là on a des invités, donc n'hésitez pas, bien sûr, Michel, parce que moi j'ai posé quelques questions plus génériques sur les associations. En quelques mots, ça permet de mieux se connaître. Et si vous avez, avec votre regard plus aguerri, plus aiguisé, n'hésitez pas, bien sûr, à poser quelques questions aux intervenants. Alors j'ai commencé avec vous, Thierry, si vous voulez bien. Hein. Donc Thierry Baudin, vous êtes président de Gère l'Astronomie. Alors comme toutes les associations de ce genre, j'emploie ce mot avec bienveillance. Une association de passionnés avant tout.
Hein. Bien sûr, tout à fait. Oui, Gère l'Astronomie, donc maintenant, c'est une association qui a plus de 20 ans, donc sur l'ouest de Bordeaux, à Martignas-sur-Jalles. Effectivement, nous sommes tous, donc une centaine d'adhérents, bien sûr des passionnés d'observation et surtout désireux de faire connaître cette passion et de faire observer le ciel au maximum de public.
Puis c'est un partage entre vous-même, parce qu'entre gens passionnés...
Oui, voilà, nous avons effectivement des soirées d'observation entre adhérents. C'est la plus grande partie de nos activités. Mais dans le cadre des manifestations nationales, hein, comme le jour de la nuit dont vient de parler Michel, c'est là que le public vient nous retrouver et est super content quand ils repartent.
Alors on va dire quelques mots également avec Joël Vallée, concernant, même si avec Corinne on avait déjà parlé d'astronomie géante 33, mais c'est bien d'en dire quelques mots. Donc avant de rentrer sur les événements, comment on peut rejoindre l'association? Alors évidemment, quand il y a des événements tels que ceux dont on va parler, ou Nuit des étoiles, etc., ce sont des moyens, bien sûr, de toucher un public, de voir de nouvelles têtes, hein, je dis ça pareil avec bienveillance, mais quelqu'un qui nous entend, qui dit, j'habite pas très loin, j'ai cette passion-là, mais on n'ose pas toujours, parce qu'on dit, là, quand je les entends parler, c'est que des érudits, etc.
Oui,
moi, j'ai cette même passion.
Tout à fait, effectivement.
Ça peut arriver, je pense.
C'est tout à fait ça.
Après, je parle de manière générique,
pas spécifiquement. Des érudits, moi, je ne suis pas du tout ingénieur et tout ça. Et,
ah bon ?
Voilà, tout à fait. Et donc, ma passion, c'est aussi l'astronomie, mais à mon niveau.
Bon.
Et donc, pour pouvoir nous retrouver, nous avons des permanences. Toutes les associations ont des permanences, soit le vendredi soir. Pour Gère l'Astronomie, c'est le vendredi soir pour les observations, mais également les mercredis après-midi et les samedis après-midi. Et donc là, le public peut venir nous retrouver pour prendre connaissance
de
nos activités,
échanger,
exactement. Et là, c'est l'occasion de présenter toutes les activités, parce qu'il n'y a pas que l'astronomie, que les observations. Auprès de Gère l'Astronomie, nous avons plein d'autres ateliers, pour faire découvrir cette passion, ce loisir.
Voilà, on continuera à en parler avec vous. Après, je laisserai la parole à Michel, juste Joël Vallée, donc Astronomie Gironde 33, rappeler, c'est comme ce que disait Thierry, c'est une association de passionnés qui est très ouverte, bien sûr, si on veut vous rejoindre. Je ne sais pas si vous voulez amener quelques précisions, puis on va rentrer dans le détail des événements, bien sûr.
Oui, non, tout à fait. Enfin, moi, je suis très heureux de représenter aujourd'hui Corinne. Et quand elle m'a appelé ce matin, c'est vrai que je ne pouvais pas lui refuser. AG33, donc Thierry connaît très bien ce club, c'est un très très bon club sur la région, avec une présidente très dynamique, très investie, on ne peut rien lui reprocher, toujours je dirais à l'écoute et à la disposition, que ce soit pour les chevronnés dans le domaine de l'astronomie ou pour je dirais les néophytes. C'est vrai que bon, c'est une bonne adresse comme j'ai l'astronomie.
Et quand je vous écoute, vous connaissez en général les associations, hein, parce que chacun a son activité, on a son secteur, mais là quand je vois il y a quelques passerelles néanmoins, c'est...
Alors moi je vais me présenter, je suis le magasin d'astronomie spécialisé dans ce domaine depuis déjà plus de 35 ans, j'ai vu beaucoup de clubs donc se créer donc dans la région Nouvelle-Aquitaine. C'est un grand plaisir d'une part d'être en relation avec eux, hein. Je partage de bons moments avec Gel Astronomie. J'ai rencontré Michel le jour d'une venue dans notre magasin et c'est vrai que bon, ça crée beaucoup de souvenirs et
oui, de liens et puis de
énormément
partage
de liens, énormément de liens. Et c'est vrai que ben, moi-même le premier, quand j'ai un client qui veut s'initier dans ce domaine de l'astronomie, je les envoie vers les clubs qui sont à notre portée aujourd'hui, qui sont très à l'écoute.
Voilà, et sans entrer dans le détail, et Michel, comme ça, on pourra s'entretenir avec vous, hein, sur les événements à suivre. Est-ce qu'il y a comme cela, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il y a quand même des petits conseils à donner quand on veut s'équiper, hein, parce qu'on entend, je ne vais pas rentrer dans certaines polémiques, mais il ne faut pas acheter n'importe quoi, n'importe où non plus, parce qu'il y a des normes, sur la sécurité, etc. Donc sans entrer dans le détail, est-ce que vous pouvez quand même amener un petit point de vue sur cet aspect-là, sur l'achat du matériel qui est ô combien important?
Je vais vous donner mon point de vue, et Michel l'a précisé tout à l'heure lors de son interview. Déjà, commencer avec une très bonne paire de jumelles, vous pouvez faire du planétaire. Et ce matin, donc, j'ai un client qui est venu, qui a découvert donc, qu'il y avait des clubs dans notre région, puisqu'il n'y a pas très longtemps qu'il est arrivé. Et puis, comme il n'était pas habitué à découvrir une voûte céleste aussi agréable que nous avons dans la région où il réside, eh bien, il est passé dans un club, et puis, donc, pas très loin de chez lui. Et on lui a dit, mais avant de commencer avec un instrument, vous êtes néophyte. Le meilleur moyen, vous prenez une bonne paire de jumelles, que ce soit du 7,50 ou du 10,50, et vous allez voir, vous allez avoir une très, très bonne approche, donc, notre ciel.
Très bien. Mais Michel, hein, si vous voulez vous entretenir, mieux les présenter, puis mettre en avant les événements à suivre, ou si vous voulez compléter, allez-y. Hein,
c'était plutôt un peu pour compléter, mais au fur et à mesure qu'on parle, il y a de plus en plus de choses à dire.
Bien sûr,
je vais essayer d'être bref. Donc déjà, sur le matériel, dans les clubs, enfin en tout cas ceux que j'ai pratiqués moi, lorsque des personnes viennent nous rencontrer, la première chose qu'on leur dit, c'est de ne rien acheter, sauf effectivement peut-être une paire de jumelles. Parce que beaucoup de gens ont une idée un peu fausse de ce qu'on voit dans un télescope, parce qu'ils voient des belles photos dans les magazines et tout ça, et c'est pas ce qu'on voit dans un télescope. Ils ne se rendent pas compte que l'astronomie, ça se passe la nuit. En été, c'est très tard. En hiver, il fait très froid. Donc parfois, certains veulent se lancer, puis au bout de quelques tentatives, ils se rendent compte que c'est pas fait pour eux. Et encore plus, il faut savoir trouver les objets dans le ciel. Ça a l'air de rien, mais il y en a beaucoup. Mais il faut tomber pile dessus avec des cartes, etc. Donc il faut, le plus simple, il faut rejoindre un club d'astronomie. Ça permet de voir comment ça se passe. Ça permet d'observer déjà dans des instruments avec des gens qui sont aguerris, qui connaissent bien leur partie. Et c'est là qu'on va voir si vraiment on persévère dans cette passion, hein, effectivement, pour ceux que ça intéresse. Par rapport au club, alors toujours de rejoindre les clubs, moi j'ai pu constater dans le passé, et notamment quand j'étais à Belfort ou dans les opérations publiques ici en Aquitaine, ou mon ancienne activité avec mon planétarium, beaucoup d'astronomes amateurs ont un petit télescope chez eux et ils hésitent à rejoindre un club d'astro parce qu'on se fait des idées fausses sur ce que c'est qu'un club d'astro. On imagine des gens, vous parliez d'érudits tout à l'heure, Joël.
En fait, pas d'autres synonymes, mais au moins on se comprend.
On voit plutôt le côté scientifique. On se dit qu'on va faire des calculs compliqués pour trouver les objets avec la trigonométrie, tout ça. Ce qui est complètement obsolète de nos jours, parce que n'importe qui peut avoir sur son PC un logiciel qui va lui donner la position de n'importe quel objet dans le ciel. Mais un club d'astronomie, c'est pas ça du tout. Ça peut l'être, hein. On peut plus ou moins aller loin dans la connaissance des objets et des techniques, Mais au départ, ce sont la plupart des clubs d'observateurs. Et l'observation, c'est de regarder dans le ciel tout bêtement. Moi, je compare souvent, hein, comparaison vaut ce qu'elle vaut, à quelqu'un qui s'intéresse aux oiseaux et qui va se mettre au bord d'un étang avec une paire de jumelles. Il n'y a pas besoin de tout savoir de la vie des canards pour aller regarder des canards avec une paire de jumelles. Et dernier point par rapport aux clubs qui se connaissent tous plus ou moins, c'est vrai que c'est un petit monde, le monde de l'astronomie, et que régionalement, on se côtoie plus ou moins tous. Et je dois dire que de ce point de vue-là, AG33 joue un grand rôle dans la région parce que Corinne anime une espèce de liaison entre les clubs en organisant des conférences à SOCAT où les clubs ont l'occasion de se retrouver, en organisant aussi de temps en temps, avant le Covid on va dire, des réunions interclubs hein, qui étaient assez sympas le soir. Et donc il y a comme ça tout un brassage des astronomes amateurs de la région grâce entre autres à AG33.
Très bien, si vous voulez chacun nous présenter les animations que vous organisez ou co-organisez, hein, parce que souvent bien, on mutualise. Voilà, je vous en prie.
J'ai l'astronomie. Voilà, donc sur l'ouest de Bordeaux. Donc, nous, effectivement, la fête de la science, c'est une animation que l'on fait, qu'on essaye de faire tous les deux ans généralement, qui d'habitude est plus orientée sur les scolaires. Donc, on essaye de faire venir les enfants dans ces animations-là. Avec effectivement la crise sanitaire, donc l'année dernière, on n'avait pas pu le réaliser. Cette année, c'est pareil, on n'a pas pu le réaliser. Parce qu'il faut, avec les écoles, ça se prépare bien à l'avance et avec toutes les incertitudes qu'il y avait, on n'a pas pu mettre ça en place. Donc là, nous, cette année, ce que nous allons proposer pour la fête de la science, c'est tout d'abord une visioconférence, donc le vendredi 8 octobre à partir à 20h30. C'est donc un ambassadeur de l'Agence spatiale européenne, dont a parlé tout à l'heure dans sa chronique Michel, qui va nous présenter la sonde Rosetta. Rosetta, chasseur de comètes, tout le parcours de Rosetta, de sa conception jusqu'après à la fin de son activité. Donc c'est une visioconférence. Pour y participer, il suffit juste d'aller sur notre site internet jal-astro.fr et d'envoyer un mail sur le lien, sur une adresse courriel qui est dédiée à ça pour pouvoir recevoir le lien Zoom. Ensuite, nous avons le lendemain, effectivement le jour de la nuit, toujours bon, un petit peu calé dans le cadre de la fête de la science. Donc à Martignas, à côté de l'observatoire, enfin à l'observatoire Jal Astronomie et sur le parking qui jouxte, on mettra 5-6 instruments, soit en vision à l'oculaire, soit sur écran. Donc à partir de 20h30, 21h. Et enfin, la fête de la science, donc on déborde un petit peu, nous, sur la fête de la science qui est effectivement sur une semaine. On fera une exposition d'astrophotographie dans le centre de Martignas, les 15 octobre après-midi et 16 octobre après-midi. On présentera les techniques d'astrophotographie de certains adhérents et on présentera les 14 ou 15 astrophotographies qu'ils ont réalisées et on indiquera les techniques pour y arriver. Donc c'est le 15 après-midi et le 16 après-midi.
Voilà, ça fait déjà un beau programme.
C'est un très beau programme, hein, tout à fait.
Voilà, après vous pouvez compléter. Donc Joël, vous avec Astronomie Gironde 33, qu'est-ce que vous avez à nous annoncer?
Eh bien, comme le disait Michel, c'est vrai que Corinne a un joli programme. AG33 SOCAT, donc fait la fête de la science le samedi 2 octobre. Festival de la science, ça sera à Saint-Médard-des-Rands avec une animation solaire de 10h donc à 18h. Il y aura d'autres associations scientifiques qui seront présentes avec des expériences donc assez amusantes, 6 divers thèmes scientifiques. Programme complet, vous le retrouvez sur le forum de l'association. Le samedi 9 octobre, à partir de 20h30, là donc il y aura une observation nocturne sur le pré-communal de SOCAT, avec la réserve naturelle géologique qui parlera des faunes nocturnes. La commune de SOCAT s'engage donc à éteindre l'éclairage public du bourg pour cette occasion. Plus de détails sur le forum donc d'AG 33 SOCAT.
Très bien, Michel, si vous voulez donner quelques mots, hein, on rappelle Philippe Gilabert, voilà.
Un peu plus
de notre santé, voilà. Je rappelle, on lui souhaite bien sûr tout nouveau de prompt rétablissement. On peut peut-être dire quelques mots, pas cela autant privilégier, prioriser bien sûr les invités, mais ne pas oublier Vega de la Lyre, et puis peut-être donc dans les grandes lignes, ce qu'il propose également sur cette fête de la science.
Alors par rapport à Gel, c'est de l'autre côté de Bordeaux, puisque c'est à Vert qu'est située l'association Vega de la Lyre, qui est un observatoire là-bas. Alors, Philippe m'a envoyé un mail en précisant donc que lui aussi, enfin, cette association propose des animations dans le cadre du jour de la nuit, donc le samedi 9 octobre, à partir de 21h. C'est gratuit, hein, bien sûr. Donc il y aura des télescopes posés sur le pré tout autour de la coupole et qui permettront d'observer le ciel, donc un peu de voir tous les objets dont j'ai parlé tout à l'heure, les objets de l'été, les planètes, et entre autres Saturne par exemple. Il précisait que si la météo n'était pas favorable, ce seront des exposés et une mini-conférence dans leur salle de conférence, puisqu'il y a une salle de conférence à l'observatoire, en lien avec la pollution lumineuse, hein, puisque c'est le thème de l'opération, et ses impacts sur la biodiversité et la santé humaine.
Ouais, ce que j'ai oublié de préciser, effectivement, toutes ces animations sont gratuites. Hein. C'est une manifestation nationale, et donc tous les clubs d'astronomes amateurs, effectivement, présentent ces animations gratuitement.
Voilà, et puis c'est vrai qu'on l'a peut-être évoqué, mais pas sanitaire, bien sûr. Enfin, les mesures sanitaires, voilà, ça c'est pour le bien-être de tout le monde. Hein. Après, je pense qu'on y est habitué.
Maintenant, oui.
Voilà, mais c'est bien de le préciser. Donc, je ne sais pas du coup, Thierry, bien, est-ce que vous voulez compléter sur vos clubs respectifs?
Je voulais juste préciser
une
chose.
Michel, je ne vous oublie pas. Mais...
Joël nous a parlé le samedi 2 octobre, dans le cadre de la fête de la science, des animations prévues à Saint-Médard-d'Héron, effectivement, par différentes associations. Donc, il y aura d'autres sujets que l'astronomie, mais ça peut peut-être surprendre les auditeurs qu'on parle de faire de l'astronomie de 10h à 18h alors qu'il fait nuit qu'à 21h. Et voilà, donc je voulais le préciser pour les auditeurs. C'est sur le soleil.
Oui, préciser au micro.
Mais il n'y aura pas que ça, parce que j'ai vu, je suis allé voir le programme sur le forum, il y aura aussi la possibilité de faire décoller des petites fusées pour les enfants.
Donc ça, c'est plutôt le côté pédagogique.
Donc il y a plusieurs animations prévues en journée. Sûr. On peut parler d'astronomie
la journée. Y compris pour les petits et les grands. Donc ça, c'est pas, plutôt sympa aussi.
C'est pas forcément que la nuit.
Très bien. Je ne sais pas si vous voulez compléter Michel. Donc, je ne sais pas si chacun voulait compléter par rapport à ça. Les programmes, on va partager, bien sûr, avec Internet. Ça permet d'avoir les bonnes infos. Mais chacun, par exemple Thierry, je ne sais pas si vous voulez compléter sur le club ou d'autres projets ou je ne sais quoi.
Oui, c'est pour compléter sur notre association. Hein, donc nous avons aussi des ateliers. Hein, on intervient beaucoup dans les écoles pour démocratiser le ciel. Notamment dans la création de différents ateliers, fusées à cachet effervescent, fusées à eau, constellations 3D, tout ça sur les centres de loisirs, sur les associations aussi. Donc on fait beaucoup d'animations dans ce cadre-là. On fait effectivement des observations solaires aussi, soit les samedis après-midi lors des permanences quand le soleil est là, parce que bon, en ce moment, ça y est, on dirait que j'espère que ça ne reprendra pas comme l'année passée, parce que le ciel a été pas très très avec nous pendant quelques mois. On propose beaucoup d'autres choses. Et après, pour nos adhérents, on propose aussi plein d'ateliers pour nos adhérents, notamment l'initiation à l'astronomie, comme le disaient mes deux collègues tout à l'heure. Effectivement, il faut commencer par apprendre à connaître le ciel, se repérer dans le ciel quand même. Et donc, on a tout un programme d'initiation à l'astronomie pour ceux qui débutent là-dedans. On fait réaliser aussi des ateliers de création d'astrolabes, de cadrans solaires. Et même, on va travailler cette année sur un support pour associer astronomie via la mythologie, aborder l'astronomie via la mythologie. Donc voilà, donc on propose plein de choses à nos adhérents cette année.
Ça fait de l'actu, hein.
Ouais, il y a pas mal de choses.
En même temps, entre passionnés. Est-ce qu'on peut rejoindre l'association? Parce que c'est vrai qu'il y a les adhérents, mais après, est-ce qu'on peut être force de proposition? Parce que
bien sûr,
animer les ateliers, même si on a de bonnes connaissances, c'est pas à la portée de tout le monde.
Effectivement, faire des conférences, c'est pas à la portée.
Parce qu'il y a la transmission, il y a d'être capable d'expliquer, avoir les connaissances.
Ah oui, bien sûr, il y a un minimum. Oui, bien sûr, oui. Pour faire des petits ateliers, construire des ateliers de système solaire, bon, il faut connaître, effectivement les planètes, mais sinon après n'importe qui peut le faire, hein. Donc et tout le monde est force de proposition, bien sûr,
on a envie de partager, parce que c'est pas toujours évident de savoir transmettre. Donc là, je présume que via le site internet, si on est une structure
On a toutes les coordonnées, effectivement, voilà. sur notre site internet. On présente tous nos ateliers, donc sur gelastro.fr.
Donc, une association qui s'y tient dans le cadre d'un événement. Ça serait bien d'avoir cette fenêtre sur cette partie-là. On peut vous contacter, puis après...
Bien sûr, on a des moyens de communication, courriel ou téléphone, il n'y a pas de souci.
Très bien. Mais Joël, je ne sais pas si vous le complétez aussi, parce que j'ai un œil aussi sur le...
Non, mais écoutez, moi, j'étais très content. C'est la deuxième fois que je viens dans vos studios. Et franchement, merci pour cette accueil.
Et ça ne sera pas forcément la dernière. Hein.
Je l'espère bien, c'est toujours très agréable, surtout que de rencontrer Michel
et Thierry, en l'occurrence.
Thierry
Baudin, président de l'astronomie.
Et représenter Corinne, qui aujourd'hui, pour des raisons, je dirais, donc, m'a
oui,
demandé...
Oui, familial, malheureusement, voilà.
Ça, tout c'est... à fait, et je lui dis, je ne peux te le refuser, c'est avec plaisir.
Peut-être juste nous dire où on peut avoir toutes les infos, et puis votre magasin, c'est pas de la pub déguisée, n'hésitez pas à en dire quelques mots. Mais, si on est amateur, voilà, qu'on veut la bonne adresse...
Que vous soyez amateur, que vous soyez, je dirais...
professionnel,
néophyte, donc une bonne adresse, je dirais, Astronomie Espace Optique, 230-253 rue de Pessac à Bordeaux, déjà depuis 35 ans que le temps passe.
C'est une très bonne adresse et de très bons conseils.
Oui, Michel.
Oui,
je ne vous oublie pas, je regarde juste le temps, mais si vous voulez compléter, allez-y, bien sûr.
Je vais aussi compléter un petit peu sur AG33, parce qu'en fait, on met le focus là sur les animations de la prochaine semaine, puisque ce sont des opérations nationales d'une certaine envergure.
Sont déclinées à l'échelle.
Mais AG33, je le sais pour les connaître, malheureusement, je ne suis jamais disponible le week-end pour venir les rejoindre, mais accueille le public plus régulièrement dans l'année. Ce ne sont pas les seules opérations, les nuits des étoiles et autres. Et je crois qu'à peu près une fois par mois, à Socat...
Quels que soient les clubs, hein, c'est vrai que Corinne franchement, elle vit sa passion. Hein, enfin, quand on l'a en face de soi, c'est vrai qu'on passe vraiment un très très bon moment. Mais quels que soient les clubs, comme pourra me le dire Thierry...
On accueille le public quand ils veulent. Oui, il y a pas de problème.
Même Philippe Gilabert, donc Vega de la Lyre, c'est pareil. Donc, quel que soit, donc, dans la semaine, si la météo se présente, donc, porte ouverte dans tous les clubs, les associations sur la région bordelaise.
Voilà, c'est pour ça qu'on va retenir le conseil que vous donnez, il ne faut pas hésiter à
absolument
aller ouvrir
pas.
Les portes. C'est toujours le premier pas qui coûte ou qui compte, mais c'est dit.
Et par rapport aux instruments, hein, comme je disais tout à l'heure, on conseille de ne pas s'équiper, disons prématurément, avant de savoir ce que c'est que l'observation astronomique, à part une paire de jumelles, qu'on peut toujours utiliser d'ailleurs pour autre chose. Mais je tiens quand même à alerter les auditeurs sur le fait que beaucoup de magasins proposent des instruments d'astronomie, des petites lunettes, des petits télescopes, et ne connaissent malheureusement pas du tout l'observation astronomique. Il y a des opticiens, il y a même des boutiques de photographie, par exemple, qui proposent ce genre de matériel. Il y a très peu de boutiques en France qui sont vraiment spécialisées, qui peuvent vous donner de bons conseils. Donc il faut vraiment s'orienter vers les boutiques spécialisées.
C'est comme dans tout domaine, hein, parce que ça a un coût, bien sûr. Hein. Mais il vaut mieux avoir les bons conseils à viser. Et puis c'est vrai qu'on en parle souvent, Michel, de cet aspect-là. Hein. Au moment de Noël, je pense qu'il doit y avoir sur des listes à Papa Noël. Voilà, donc c'est bien de donner les conseils à viser pour ne pas s'endetter sur le matériel qui ne serait pas forcément d'ailleurs peut-être au nord.
Mais c'est même pas une question de normes, mais une lunette jouet en plastique avec de mauvaises optiques, très mauvaise monture, il n'y a rien de tel pour dégoûter un enfant de l'astronomie, parce qu'on ne peut rien voir dedans. Même nous, on arrive à peine à regarder la Lune dans un instrument comme ça.
C'est valable dans plein de monde. Moi, je suis musicien amateur, on voit des guitares qui sont vendues, elles sont injouables, et souvent des prix, j'ai presque dire astronomiques, mais je n'ai pas osé le jeu de mots.
et pour conclure, je rebondirai juste un peu sur ce qu'a dit Thierry. À propos de la mythologie, effectivement, les constellations qui permettent de se repérer dans le ciel viennent de la mythologie grecque, pour ce qui nous concerne. Mais toutes les cultures ont projeté leur mythologie dans le ciel. Et en fait, le ciel, j'avais l'habitude, lorsque je faisais du pattern, d'expliquer aux enfants que c'était un peu comme un livre, un grand livre, sur lequel on avait écrit nos croyances, notre cosmologie, etc. Et je rebondis sur le problème de la pollution lumineuse, parce qu'en faisant disparaître les étoiles de notre ciel, surtout dans les villes et même les villages qui sont de plus en plus éclairés, on se coupe de toute cette culture ancestrale, voire millénaire. Ça fait des milliers d'années que les hommes se tournent vers le ciel pour représenter leur mythologie. Et depuis une cinquantaine d'années, on commence à se couper complètement de cette culture, de cette richesse que nous apporte le ciel.
Voilà, je vais juste ouvrir une parenthèse. Il y a quand même des villes. Hein. Moi, je suis Follaraquais, je ne vais pas raconter ma vie. L'éclairage public est éteint hein, depuis déjà pas mal de temps. Alors, c'est vrai que ça surprend la première fois. Parce que là, même si en voiture, bien sûr, on a des phares ou à pied, c'est bien d'avoir une lampe. Mais voilà. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Parce que l'heure tourne, sauf si vous voulez dire un tout dernier mot.
Non, mais c'est vrai qu'on gaspille beaucoup d'énergie à éclairer les villes la nuit alors qu'il n'y a personne dans les rues. Le pire, c'est encore les monuments.
Quelques personnes.
Les monuments historiques. Des monuments, des petites chapelles en pleine campagne qui sont éclairées toute la nuit, en plus avec des éclairages qui montent vers le ciel, donc qui sont très mauvaises pour la pollution lumineuse, alors qu'il n'y a personne pour les voir. Donc il faut quand même réfléchir à un bon usage de l'éclairage. On n'est pas pour tout arrêter.
Ce sont des enjeux sociétaux,
mais,
bien sûr.
Mais un bon usage de l'éclairage et pas trop.
Très bien. En tout cas, merci de nous avoir éclairé sur ce point-là. J'essaye pour les jeux de mots. Allez, je sais pas si vous avez pu tout dire, bien sûr, aujourd'hui, mais on n'hésitera pas à vous réinviter, hein, Michel, à ce rendez-vous mensuel, bien sûr, avec sa chronique astro. Mais quand il y a des événements, nuit des étoiles ou autre, faudra pas hésiter. En tout cas, merci, hein, à
merci
chacun d'entre
radio.
Vous. Donc, Thierry, on rappelle, Thierry Bonin, vous êtes président de JAL à Astronomie. On va essayer de partager sur Facebook et Instagram, hein, en ce qui nous concerne, nos deux radios, vos liens respectifs, hein, si on veut voir les compléments. Merci à vous, Joël Vallée, donc l'association Astronomie Gironde 33, G33. On fait un petit coucou à nouveau amical à Corinne et puis Michel. Rendez-vous le 27 octobre.
Voilà.
En tout cas, merci hein, pour à la fois l'organisation de ce plateau et de cette chronique. Et on rappelle qu'on peut les retrouver sur le site constellationsetgalaxies.org et 7 ans de chronique. Pour que ça dure.